BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom cette semaine avec Cédric Saint-André Perrin, directeur éditorial de AD Studio. On va parler de diversification événementielle pour la presse écrite. Et puis avec Grégory Lecointz, le directeur général de Publicis ETO, et Sandra Benabou, avocate au cabinet H2O Avocat. On s'intéressera au RGPD. Après le scandale Facebook, nos données personnelles vont-elles enfin être mieux protégées grâce au nouveau règlement européen? Et puis en fin d'émission, rencontre avec Stéphane Demouy, préparateur physique, cofondateur du concept Mister Coaching qui vient de lancer son application HebdoCom. Ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Pour les news, alors cette semaine, Lufthansa poursuit sa campagne Say Yes to the World.
Lufthansa a placé deux sièges d'avion au milieu de grandes places partout dans le monde. Deux personnes se rencontrent à chaque fois et ils répondent à une question. Pourquoi aimez-vous le monde? Alors les réponses sont multiples. Le monde est une aventure, le monde est beau, la vie est trop courte pour le découvrir. Une vidéo qui joue donc sur le registre émotionnel et qui va vous donner envie de voyager, j'en suis sûre. La campagne est signée par l'agence allemande Kölle Rebbe.
Justement, puisque vous parlez d'Allemagne, une publicité pour Mentos là-bas.
Mentos met en scène un jeune homme un peu extravagant. Depuis son enfance, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, il tire à pile ou face. Alors c'est devant une glace vanille fraise, il tire à pile ou face. Quand son grille-pain prend feu, il tire aussi à pile ou face pour savoir s'il prend l'eau des fleurs ou l'eau du poisson. Voilà. Et ça va même plus loin. Devant le prêtre à son mariage, il fait pile ou face. Alors malheureusement pour la demoiselle, ça sera non cette fois-ci. Il se sépare finalement de sa pièce fétiche à la fin de la publicité devant un distributeur. Pas d'hésitation. Cette fois-ci, il prend un paquet de Mentos.
Et la campagne est signée par l'agence Film Academy Bad Württemberg. Et puis McDo renouvelle sa campagne qu'on connaît bien, venez comme vous êtes.
Retour aux fondamentaux pour McDonald's. La marque met en scène son slogan « Venez comme vous êtes » avec des héros de notre enfance. On découvre donc trois nouvelles affiches publicitaires. Une avec Lucky Luke et son ombre dans un fast-food. Une autre avec le héros de la série Dragon Ball Z en pleine acrobatie sur une borne pour commander. Et enfin, le tyrannosaure de Jurassic Park qui ne fait que passer au drive. Tous les services de McDonald's sont ici mis en avant. La campagne est signée par l'agence BETC.
Campagne donc pour les plus de 30 ans, Frédéric.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est aussi une cible pour McDonald's. Il n'y a pas que les enfants, il y a les parents et puis il y a même probablement les parents des parents.
Merci Marie Valogne, à la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom. L'invité.
L'invité de la semaine, Cédric Saint-André Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur éditorial de AD Studio et vous organisez l'exposition Matière d'art qui va se tenir jusqu'au dimanche 1er avril au Palais d'Iéna à Paris. Vous organisez maintenant deux événements par an. Est-ce que l'événementiel, c'est un passage obligé, une diversification obligatoire pour la presse écrite?
Je ne sais pas si c'est forcément obligatoire. Pour un titre comme le nôtre, qui est un magazine de décoration, c'est une possibilité, c'est impossible. C'est vraiment quelque chose qui est dans la continuité de ce qu'on fait dans le magazine, c'est-à-dire qu'on est un magazine de décoration qui présente des sélections de choses, qui sont souvent des lieux, qui sont le travail d'artistes, d'artisans. On le faisait sur une version papier, et aujourd'hui, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer aux gens d'expérimenter ce qu'on montre dans le magazine. Donc notre exposition de septembre qui s'appelle AD Intérieur, c'est on demande à des décorateurs chacun d'agencer une pièce. Donc en fait, on propose aux gens qui ont envie de venir voir de rentrer dans les pages du magazine.
Oui.
Et là, pour cette première exposition qui est AD Matières d'art, qui est entièrement dédiée aux artisans de la décoration, c'est-à-dire les gens qui font du staff, les gens qui font de la boiserie, de la dorure, de la céramique. On leur a demandé à chacun de présenter des panneaux qui sont un peu comme une matériothèque, parce que dans les métiers de la décoration, souvent, il y a des petits échantillons de matière qui permettent aux architectes de travailler. On en a fait une immense présentation dans le palais d'Iéna. Et l'idée, c'est pareil. C'est comme, de la même façon qu'on fait des portraits de ces gens-là dans le journal, on s'est dit, peut-être que nos lecteurs sont intéressés pour voir pour de vrai. Parce que une photo d'une céramique, d'une mosaïque, c'est très joli. Mais c'est pas mal aussi de le voir pour de vrai.
Frédéric.
Et alors vous, en fait, ces expos-là, c'est un petit peu... C'est un peu la même fonction que dans d'autres journaux, l'extension digitale, quoi. C'est-à-dire que, en préparant cette émission, vous disiez sur le digital, on y est parce qu'on y est. Mais en fait,
c'est une autre façon de voir. Je pense qu'il y a ou la possibilité pour les journaux de faire glisser pas mal de contenus qui traditionnellement étaient sur papier, qui sont consommés d'une autre façon, qui est le digital. Mais peut-être qu'on peut créer d'autres choses aussi. C'est pas forcément la solution pour tous les médias, mais pour des médias comme les nôtres sont des médias beaucoup d'images. C'est pas mal que les gens puissent voir en vrai et profiter de choses auxquelles ils n'ont pas accès les trois quarts du temps. Parce que tout ce qu'on présente, ce sont dans cette exposition, c'est des panneaux de matière, des choses comme ça. Vous les découvrez dans des showrooms professionnels si vous êtes professionnel, mais sinon, si vous êtes grand public, c'est impossible de découvrir tout ça.
Ça doit être très lourd à organiser. J'imagine, et puis en termes d'investissement, c'est rentable comme ça de faire une exposition?
Alors, c'est rentable. On ne gagne pas d'argent directement sur les expositions parce qu'on a besoin de les produire et que ça coûte assez cher. Hein. Ça coûte 300 000 euros. Si, c'est entièrement grâce à des sponsors qu'on arrive à faire ces expositions, des gens qui nous aident et qui sont intéressés de participer avec nous dans ce genre d'aventure. Et c'est comme ça qu'on les fait... vivre. Nous, c'est pas quelque chose sur lequel on tire directement l'argent, mais c'est un écosystème économique pour nous. C'est-à-dire que faire une exposition, ça nous permet de faire un catalogue. Faire un catalogue, ça nous permet de vendre plus de journaux, parce que c'est vendu avec le numéro normal. Donc, en kiosque, ça nous permet d'augmenter nos ventes. Quand on augmente nos ventes, on peut avoir des publicités parfois dans le journal un petit peu plus chères. On a la publicité de vendre un petit peu plus de publicité à d'autres endroits. Ça permet aussi à des gens qui ne connaissent pas le journal de le découvrir ou qui ne le liraient pas juste pour la décoration, mais qui sont intéressés par l'artisanat, qui vont se dire, tiens, on va acheter le journal. C'est un espèce d'équilibre étrange, mais qui fait que ça marche. Oui, ça fait 10 ans qu'on le fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour nous, devient de plus important. Ça représente, je crois, 20% du chiffre d'affaires du magazine aujourd'hui. C'est quand même
20%.
Pas mal.
20%. Oui, quand même, c'est important.
Et le lectorat, c'est... Alors, le lectorat et le visitorat d'AD, c'est...
Alors, c'est un peu pareil. On a un magazine un petit peu atypique parce qu'on est d'abord un des rares magazines qui soit 50% féminin dans le lectorat et masculin, et 50% professionnel et 50% grand public. Donc, en fait, on est un petit peu sur la jonction des deux. Le visitorat de nos expositions est à la fois mélangé de professionnels et de grand public qui a un intérêt ou un goût, parce que on est un magazine quand même relativement pour on est un magazine de rêve, en fait, si vous voulez. Les gens dans le public le regardent, ce magazine, parce qu'ils voient des très beaux endroits. Donc, il y a un aspect aspirationnel.
Merci beaucoup Cédric Saint-André Perrin. Je rappelle que vous êtes le directeur éditorial de AD Studio et votre exposition donc AD Matières d'Art jusqu'au dimanche 1er avril au Palais d'Iéna.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et on retrouve cette semaine Valérie Potin.
Et oui, et Valérie, avec qui on va parler de cette pub Calvin Klein qui a été détournée par un collectif plus size pour dénoncer la dictature, le culte de la minceur qui sévit aussi chez les hommes.
Même vous allez me faire pleurer.
Chez nous, mais bon. Exactement, c'est vrai, on peut presque parler d'une campagne d'embauche marketing qui a été initiée par ce collectif, effectivement, et plus particulièrement par Daniel Graham, qui est un mannequin américain de 180 kilos, donc un beau bébé, comme on dit, et qui a publié sur Instagram il y a quelques jours une photo qui reprend effectivement toute la mise en scène de la campagne Calvin Klein, dans laquelle tous les modèles finalement ont été remplacés par leur équivalent en version king size. Le tout associé d'un hashtag qui est donc We Are Big and Tall, qui veut dire en gros nous sommes
Grand et costaud.
Grand et costaud, on va dire, voilà, pour rester poli. L'objectif étant de démontrer que les physiques hors normes, finalement, font au moins aussi bien que les autres, à ceci près que eux ne sont jamais représentés dans les campagnes de ces marques. Donc, cette initiative, elle s'inscrit aussi, il faut bien se rendre compte, dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle Body Positive, qui a été lancé, en fait, en 2017, le Body Posi, qui a été lancé par des mannequins féminins, pareil, physique mensuration un petit peu hors normes, et qui souhaitaient inciter, finalement, les femmes à s'assumer, à aimer, à accepter le corps, leur corps tel qu'il était. Donc à travers ce nouveau hashtag, cette fois-ci, ce sont les hommes qui s'invitent dans la danse. Reste à savoir maintenant si les marques, elles, sont prêtes à suivre la tendance.
Il y en a quelques-unes qui sont quand même déjà engagées. Je pense à Dove, par exemple, parce que c'est la plus connue. Mais
Oui, c'est vrai qu'on a effectivement Dove qui communique depuis quelques temps sur, qui met en scène des femmes plus rondes, des femmes plus mûres, des femmes plus diverses, on va dire, et plus éloignées des standards publicitaires. Mais pour l'instant, on va dire que pour les autres, on est quand même plutôt au stade du frémissement. On a quelques exemples. En 2014, Calvin Klein, justement, avait fait appel à Mila Delbezio pour une campagne sur la lingerie. On peut se rappeler aussi en 2015, c'était Pirelli qui avait mis en scène des femmes, également des femmes fortes, dans son calendrier, tout comme l'avait fait H&M aussi. En 2016, c'était la pulpeuse Paloma Elsesser qui faisait la promotion des brassières pour Nike. Et on peut, dans un autre registre aussi, parler de Mattel, le fabricant de jouets, qui, lui, a édité une poupée Barbie à l'effigie d'Ashley Graham. Mais honnêtement, d'une manière générale, on peut dire que la démarche qui consiste à mettre en scène des gens au physique un petit peu éloignés des standards, elle reste aujourd'hui... elle relève plutôt de l'opportunité et du coût de communication que de la réelle stratégie de marque à plus long terme. En même temps, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la publicité, au départ, son objectif, c'est quand même de donner envie d'acheter, que ce soit un produit, une idée, un service, et que cette envie, en fait, elle peut parfois s'appuyer sur des personnalités, mais dont la principale caractéristique, finalement, c'est d'être aspirationnelle, et ce, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, quel que soit son physique, son âge ou son origine.
Donc on a encore des progrès à faire. Merci Valérie Poitain.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le zoom du jour aujourd'hui, c'est compliqué, Frédéric. Oui. pas tant que ça, si on l'explique bien.
On va bien
l'expliquer. Nos invités vont bien le faire. On va s'intéresser au RGDP, le nouveau règlement général sur la protection des données, règlement européen qui entre en vigueur le 25 mai prochain. On en parle avec Grégory Lecointe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Publicis ETO et Sandra Benabou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au cabinet H2O Avocat. Au regard, c'est vrai, de ce qui s'est passé cette semaine avec Facebook et tout ce scandale autour des données, est-ce que finalement, Sandra Benabou, il n'est pas temps de protéger enfin les données des utilisateurs sur Internet?
En effet, ce scandale a mis en exergue, en fait, ce que le RGPD a vocation à encadrer, à savoir la transparence vis-à-vis des utilisateurs, ce que Facebook a manifestement manqué d'assurer, la transparence et aussi la responsabilisation des entreprises, notamment dans le contrôle et la maîtrise des données qu'ils récoltent, et savoir finalement où vont ces données et quelles sont les utilisations qui en sont faites. Parce que, en effet, les manquements au RGPD sont passibles de sanctions...
financières, oui.
Financières, et pénales même, mais financières, administratives. Si Facebook, aujourd'hui, avait violé... Enfin, si ce scandale s'était révélé sous l'empire du RGPD, donc post-25 mai 2018...
Ça leur aurait coûté très cher.
Très, très cher. Ouais. Puisqu'en effet, donc il y a plusieurs manquements qui ont été, qui peuvent être caractérisés par rapport à ce scandale. C'est un manquement à l'obligation de transparence, un manquement à l'obligation de notification. Un certain nombre de manquements au RGPD qui font que Facebook aurait été exposé à des amendes de 10 à 20 millions d'euros, voire de 2 à 4% de son chiffre d'affaires mondial.
Ouais, c'est
donc voilà. Concernant Facebook, on atteint des montants assez phénoménaux.
Frédéric.
Et pour autant, est-ce que finalement le RGPD, c'est pas aussi une chance pour réconcilier justement les internautes et les entreprises, les internautes et la publicité?
Grégory Lecointe.
Alors si, absolument. C'est évident que On le voit bien, hein, le besoin de rétablir la confiance, d'avoir des pratiques qui vont être beaucoup plus ouvertes, sont très très demandées maintenant sur le marché. Et c'est très très important que et l'industrie et effectivement les consommateurs puissent avoir cette vision complètement ouverte et transparente de voilà, on va travailler sur votre donnée et il y a une vraie valeur ajoutée à la fois pour le consommateur et pour les marques et pour l'industrie en général, mais par contre comment est-ce que vous le faites, pourquoi est-ce que vous le faites et avec quels moyens. Donc nous on voit l'arrivée de la RGPD comme une vraie aubaine et quelque chose qui va vraiment finalement avoir un effet bénéfique sur le marché, mais par contre effectivement il y a des choses surtout, et on en parlera au niveau du consentement, qui sont des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et que, à la fois au niveau de la façon dont les règlements sont pensés et de la façon commerciale, industrielle dont les choses vont être implémentées après.
Oui, alors justement, vous parliez du consentement, Sandra Benhamou. Il y a l'un des points clés, c'est le renforcement des règles d'obtention du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Concrètement, ça veut dire qu'on attend aujourd'hui des entreprises qui collectent des données de mettre en place des mécanismes de consentement par lesquels, par un acte positif, l'utilisateur consent à l'utilisation de ces données de manière non ambiguë, très claire, et de façon à ce qu'il soit vraiment au courant du traitement, du premier traitement, mais également des traitements ultérieurs, et notamment à des fins de profilage, et ce qui pourrait éviter en effet, si vous voulez, les traitements comme on a eu cette semaine, où en fait
ça veut dire que je vais avoir à chaque fois un petit formulaire qui va s'afficher et signer ici, c'est bon, vous êtes d'accord ?
Bah, l'acte positif, c'est ça.
Et donc du coup, alors paradoxalement, nous, c'est justement ça qui fait très peur à l'industrie. C'est de se dire que finalement ce qui risque de se passer, c'est de repousser finalement beaucoup encore plus de pouvoir vers les grandes plateformes telles que Facebook, telles que Google.
Parce que moi je comprends pas ça.
Parce que finalement, quand on donne son consentement, on va donner son consentement de façon beaucoup plus positive sur un service, et en général une entreprise qui a été créée autour d'un service qui la plupart du temps est gratuit, ou du moins qui est censé être gratuit.
Quand c'est gratuit, c'est
quand
vous
c'est
le
gratuit,
produit,
ou du moins ma data a une valeur, voilà. mais ma perception c'est qu'elle est gratuite. Ouais. Et que effectivement l'ensemble des citoyens ou des consommateurs vont dire bah, évidemment que je vais dire oui à Facebook, évidemment que je vais dire oui à Google, même si on commence à avoir des sensibilités maintenant.
Oui, c'est peut-être moins sûr, justement, après une semaine comme c'est
bien sûr,
au Facebook.
Bien sûr.
Quoi.
Mais par contre, entre dire oui à ces services-là, on parle d'Uber, on parle des grandes plateformes qui ont un service fondamental au niveau du digital, et faire la même chose à un constructeur automobile, à une entreprise de FMCG qui a un produit à vous vendre, la réaction intuitive, ça va être de dire non.
Alors, mon avis, je comprends tout à fait cela, mais du coup, je pense que ça va aussi pousser les entreprises à redoubler de créativité.
Absolument.
Pour sensibiliser le consommateur, pour lui expliquer, et c'est vraiment aussi là, les raisons d'être du RGPD, c'est vraiment sensibiliser et que le consommateur redevienne maître de ses données, et peut-être entourer, justement, au-delà de l'aspect consentement, entourer ce consentement de peut-être de mécanismes un peu plus ludiques ou un peu plus...
Exactement. Non, absolument.
Pour lui donner envie, en fait, pour lui montrer le côté positif de la chose, peut-être.
Après tout, ça existe déjà, pardon, mais sur votre iPhone, quand vous avez une application qui demande la géolocalisation,
oui,
qu'on vient d'installer, a priori, elle demande, je parle de la géolocalisation, mais ça pourrait être de n'importe quoi d'autre, elle dit, si vous voulez vous servir de mon appli, il faut que je sache où vous soyez. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si on dit non, bah on désinstalle l'appli, elle sert à rien. Donc après ouais,
enfin,
tout, c'est
hein,
un
pareil, on a plein d'applis qui nous demandent l'utilisation de l'appareil photo,
oui,
et en théorie elles en ont pas besoin.
Ouais, celles
c'est vrai que c'est toujours
besoin,
un peu difficile.
Celles qui
de...
en ont pas besoin.
La grande
qui ont besoin. Ça existe déjà. Ce que je veux dire, c'est que ce système de consentement à la demande, finalement, existe Absolument. Déjà beaucoup.
Alors, là, la grande peur, alors je parle de peur, c'est plutôt d'anticipation par rapport à ces sujets-là. Et là, on est complètement dans l'autre partie. Donc là, on parle du RGPD, mais ouais. il y a la loi e-privacy qui arrive. Alors, on a un petit peu plus de temps, mais ça arrive très vite. Donc c'est plutôt horizon fin 2019. Ouais. Où là, on est en plein dans ce sujet, justement. Oui. Où là, l'idée derrière, c'est d'être la gestion du consentement dans toutes ses formes, avec tout l'ensemble des données. Et la vraie question, c'est où est-ce que je vais gérer mon consentement ? Et que si mon consentement, je le gère justement dans la plateforme, dans mon téléphone qui va être, c'est Apple, dans mon dans Android, je suis chez Google, sur l'ensemble du navigateur, si on parle d'un navigateur, ça va être effectivement le navigateur de Google, ça va être Microsoft, on va retrouver du Facebook. Facebook est un navigateur à part entière aussi. Et si on donne toute la gestion des consentements, quelle que soit la marque, à ces plateformes, on leur redonne la main complètement. Et c'est là où il y a, et je suis tout à fait d'accord qu'il y a un vrai travail créatif autour, de réinventer la relation justement entre la marque, entre les plateformes et les consommateurs, autour de comment est-ce qu'on peut avoir suffisamment de confiance pour qu'on ne soit pas aux mains complètement des GAFAM, mais en même temps,
bien sûr,
le consommateur a une vision complète de pouvoir dire oui, je veux, non, je ne veux pas, à quoi sert ma data et
merci beaucoup, Grégory Lecointe. Je rappelle que vous êtes directeur général de Publicis Théo et Sandra Benabou, avocate au cabinet H2O Avocat.
BFM Business, Hebdocom, comme un chef.
C'est un peu particulier aujourd'hui. J'accueille un préparateur physique, un coach sportif, Stéphane Demouy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur du concept Mister Coaching et vous êtes associé à la fondation MMA des entrepreneurs du futur pour lancer une application pour faire du sport au bureau ou dans les transports. Comment est né ce projet ?
En fait, partout. On peut en faire partout. Alors, en fait, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Puis, j'ai fait quelques études médicales. J'ai eu différents diplômes. Et puis, j'ai monté des salles de sport. Je m'occupais essentiellement de sportifs de très haut niveau et puis après d'artistes. Et puis petit à petit, je me suis déplacé sur le monde des businessmen et de monsieur et madame tout le monde.
Ouais.
Et en fait, je voyais, c'était la performance. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient permanence l'excuse pour pas venir faire du sport, etc.
J'en connais.
Voilà. Et du coup, en fait, ce qui s'est produit, c'est que je me suis dit, on va aller les chercher là où ils sont. Donc, on va trouver un concept où on peut aller les chercher. Donc, j'en ai parlé à mon ami Franck Tapiro.
De l'agence Hémisphère Droit.
Exactement. Et Franck m'a dit, c'est génial, on fonce, on y va, on le fait ensemble. Et puis, on a rencontré Hervé Frapsos, le président de la Fondation MMA. On lui a exposé notre projet. Et puis voilà, c'est une histoire d'homme. Après, ça a roulé. On a commencé par faire un programme court télé, d'ailleurs, qui est passé sur vos antennes, BFM Business et BFM. Et on a fait une vingtaine d'épisodes. Ça a été un succès. On a eu énormément de retombées sur les réseaux sociaux. Ça a été génial. Et puis là, on s'est dit qu'on allait pousser l'aventure et qu'on allait faire une appli. On a tourné une centaine de tutos.
Ouais,
pas mal. Et en fait, c'est des exercices simples et malins que vous pouvez faire partout, en voiture, chez vous, dans les transports en commun, au bureau. Et en fait, ça permet d'éliminer les petits mots du quotidien. Et puis surtout, petit à petit, se remettre dans une énergie positive. Et puis de retrouver la forme.
Le truc marrant que vous avez fait pour communiquer autour de cette appli, c'est que vous êtes allé comme ça rencontrer des entrepreneurs dans leur bureau.
Exactement.
Pour leur faire faire des exercices, en fait.
Et c'est du ça. Coup, en fait, on s'est amusé justement à aller surprendre, on va dire, des entrepreneurs. Et on a commencé avec Marc Simoncini. Exactement. Parce que...
De CNC aujourd'hui.
Marc est un sportif. Donc, il fait du sport régulièrement. Il aime bien ça. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça plutôt drôle d'aller rencontrer Marc qui est déjà dans le sport, qui aime déjà ça, pour lui faire toucher du doigt que même à son bureau, finalement, il pourrait s'entraîner. Et donc, c'était plutôt drôle. Et Marc est sorti de son bureau après pour aller... dire à tous ses collaborateurs, faut télécharger cette application, c'est génial, il faut le faire.
Et donc vous allez faire d'autres vidéos comme ça avec des entrepreneurs pour continuer à communiquer autour de cette appli?
Ah oui, on a tout un plan média qui va démarrer la semaine prochaine. Ouais. La vidéo avec Marc va être en ligne dès ce week-end. Et après, régulièrement, on va aller piéger des patrons. Alors on garde ça sous le coude et les surprises parce qu'on veut pas qu'ils soient au courant. Et puis,
est-ce que là, Marc Simoncini n'était pas prévenu quand vous avez débarqué dans son bureau?
Non, en fait, on débarque comme ça, un peu comme ça
comme
se
passe. Comme une caméra cachée.
Exactement. Et ça permet, bon, alors c'est sûr, il faut qu'ils me connaissent un petit peu parce que sinon c'est compliqué de débarquer dans le bureau des patrons comme ça. Mais en fait, c'est une application qui s'adresse pas non plus qu'aux grands patrons. Ça s'adresse à tout le monde. Tous les entrepreneurs sont les bienvenus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ça à travers la fondation MMA, parce qu'ils ont un grand projet sur les entrepreneurs en forme et le bien-être des entrepreneurs. Et donc, du coup, ça va de l'auto-entrepreneur au grand patron. Et donc, on s'adresse vraiment à tout le monde. Et puis, c'était important. Et de là, ils portaient un projet qui était audacieux. D'ailleurs, on fait des conférences avec le club des experts de la fondation MMA partout en France. On intervient justement sur le bien-être des entrepreneurs. Et puis, ils ont développé aussi une autre application qui s'appelle Mindful Attitude. C'est super.
Ouais, alors, sur la méditation.
Exactement.
Absolument.
Voilà, sur le mindfulness. Et voilà. Et du coup, c'est un vrai concept, un vrai projet. Et la fondation nous aide à porter ça pour justement, petit à petit, arriver à faire toucher du doigt aux entrepreneurs que leur forme, c'est primordial, c'est la forme de leur société.
Merci beaucoup Stéphane Demouy, ou plutôt Mister Coaching. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CV News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.